J'aimerais prier. Seigneur, on est venu ce week-end dans le but de s'émerveiller devant ce que tu as fait, devant ce que tu veux encore faire pour nous et en nous. Et on te demande ce matin de répondre à cette attente. On te demande d'intervenir pour que ta parole puisse toucher notre cœur et nous sensibiliser à ta bonté, à ta grâce, à ta gloire, à ta puissance. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, vendredi soir, on s'est émerveillé de notre salut. Hier matin, on s'est émerveillé de la communauté qu'on forme. Et ce matin, on demande à Dieu de nous émerveiller de ce qu'il veut encore faire en nous. En janvier 2010, a eu lieu ici même, dans cette salle, une rencontre du Forum des évangélistes. Il y en a qui étaient là. Il y en a plusieurs qui étaient présents? Quelques-uns. Plus de 200 évangélistes de France, de Belgique et même de Suisse étaient réunis pour prier et pour échanger concernant les moyens à mettre en place pour mieux communiquer l'évangile à nos contemporains. De toute évidence, les gens qui nous entourent, nos voisins, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, les étudiants qui sont en classe avec nous, ont désespérément besoin de l'évangile. Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et peut-être qu'il y a même quelqu'un parmi nous, ce matin, qui n'a pas encore dit oui à cet évangile. Eh bien, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour faire le, pour prendre la décision de suivre Jésus-Christ, si ce n'est déjà fait. Et en tant que GBUcien, vous avez aussi à cœur de transmettre l'évangile à vos proches. Mais qu'en est-il de nous qui avons déjà reçu, qui avons déjà accepté cet évangile une première fois? Est-ce qu'on peut maintenant mettre de côté l'ABC de la parole de Dieu pour passer en quelque sorte à un niveau supérieur? Le simple message concernant la vie terrestre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est-il bonne nouvelle seulement pour celles et ceux pour qui ce message est justement nouveau? Non. En tant que chrétiens, nous avons encore besoin et nous aurons toujours besoin de l'Évangile. La parole de Dieu nous invite à aller non pas plus loin que l'Évangile, mais plus loin ou plus profond dans l'Évangile même. Et c'est pas la même chose. C'est dans cette perspective d'approfondissement de l'unique message puissant, parce qu'entre nous, eh ben, il n'y en a pas d'autre, que j'aimerais vous inviter à trouver le chapitre 3 d'Éphésiens dans votre Bible, et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous serez peut-être surpris de l'entendre, mais il me semble que les mots les plus percutants de ce texte sont les trois premiers mots. C'est pourquoi. Ces petits mots font le lien entre notre passage et ce qui précède dans la lettre aux Éphésiens. Or, si l'on compare les sujets de prière de Paul qui sont mis en avant dans notre texte aux deux premiers chapitres d'Éphésiens, on va constater ceci, à notre grande surprise. Dans sa prière à Dieu, Paul semble demander des choses que les chrétiens, en réalité, ont déjà reçues. Par exemple, en 3:19, Paul prie que les Éphésiens connaissent l'amour du Christ. Mais en 2:4, il a déjà affirmé que Dieu les avait aimés d'un grand amour. Aussi en 3:19, Paul prie que les Éphésiens soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais en Éphésiens 1:23, il a déjà affirmé que l'Église est la plénitude de Christ. Et attention, Paul ne dit pas au début de notre passage, même si vous avez déjà reçu pas mal de choses, je me permets d'en demander encore quelques-unes. Paul ne dit pas même si, mais il dit parce que. C'est pourquoi. Parce que vous avez tout reçu en Christ, je demande maintenant telle et telle chose pour vous. Autrement dit, et c'est le principe qui résume notre texte, Dieu nous invite à demander plus parce qu'on a déjà tout. Dieu nous invite par ce passage à demander plus parce qu'on a déjà tout. On va passer le reste de ce message à examiner ce principe. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que la tension qui est fréquente dans le Nouveau Testament entre le déjà et le pas encore, cette tension peut nous être utile ici. Déjà, par notre union avec Christ, on a reçu d'immenses bénédictions. Le 3e verset de la lettre nous dit qu'on a été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà fait. Mais on n'a pas encore la pleine jouissance de ces bénédictions. Un jour, lors du retour de Christ, on pourra les savourer pleinement. Mais d'ici là, Dieu veut que notre bonheur en lui, que notre joie, qui sera un jour parfaite, augmente progressivement. Que notre joie face aux bienfaits et aux bénédictions qui sont nôtres croisse toujours plus, que notre satisfaction en Christ augmente. Imaginez si la richesse de Dieu se manifestait dans votre vie par un virement automatique sur votre compte bancaire d'une valeur de 1 milliard d'euros. Vous recevez cette somme aujourd'hui. Et je rappelle que c'est seulement une illustration, c'est pas un sujet de prière. Les sujets de prière, on y arrive. À partir de maintenant, donc, vous possédez ce milliard d'euros. C'est déjà le cas. Mais pour en jouir, vous devez faire des retraits, vous devez faire des chèques, vous devez payer avec votre carte bancaire. Sinon, votre richesse, elle va rester abstraite, elle va rester théorique, elle ne va pas changer votre manière de vivre. Vous ne ferez pas l'expérience pratique de cette richesse. Pour profiter de votre richesse, il faut encaisser, il faut retirer, il faut demander. Eh bien, notre texte est une invitation, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une invitation à passer au guichet bancaire. C'est un appel à rechercher et à demander à Dieu l'expérience spirituelle qui correspond à l'œuvre déjà accomplie par le Christ, cette expérience que Dieu met à notre disposition aujourd'hui même et qu'il veut, qu'il souhaite nous accorder. Dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on se pose trois questions. Pourquoi demander, quoi demander et comment demander? Première question, pourquoi demander? Demandons parce que nous en avons bien besoin. Les versets 14 et 15. Paul écrit au verset 14, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Il faut savoir qu'en général, les Juifs du 1er siècle priaient debout. Par exemple, en Marc 11, 25, Jésus dit « Lorsque vous êtes debout en prière. » L'agenouillement était plus rare, il exprimait une ferveur, une supplication particulière. Autrement dit, Paul ne demande pas ces choses-là à la légère. Il s'abaisse humblement devant la majesté de Dieu, Dieu qui est la source de notre nom, nous dit le verset 15, c'est-à-dire la source de notre existence même, on lui doit absolument tout, et il implore la bonté de Dieu pour les chrétiens à qui il s'adresse. Et Paul affirme ici indirectement que notre plus grand besoin, en tant que croyants qui ont été unis à Jésus-Christ, notre plus grand besoin, c'est pas la prospérité financière. C'est pas la croissance de notre pouvoir d'achat, malgré l'illustration que j'ai utilisée. C'est pas non plus la bonne marche de notre carrière ou de nos études, même si Dieu ne méprise absolument pas ces choses. C'est pas la santé. La bonne santé, aussi importante soit-elle. C'est pas d'avoir une belle apparence physique. C'est pas de se marier. C'est pas de cultiver de belles amitiés. Mais notre plus grand besoin, c'est de vivre une expérience renouvelée et approfondie de l'amour de Dieu et de l'Évangile. Ce que Paul sous-entend, et reconnaissons qu'il a raison, c'est qu'il existe régulièrement un décalage entre la réalité qu'on a vécue en Jésus-Christ et notre expérience pratique de cette réalité. Très souvent, bien que nous soyons des milliardaires, nous vivons en smicard. Bien que nous soyons des milliardaires, spirituellement parlant, nous vivons en smicard. On sait théoriquement que Dieu nous a enrichis et que tout l'argent est en banque. Mais pour toutes sortes de raisons, on a beaucoup de mal à retirer 20 euros. On est réduit à vivre avec des miettes, avec peut-être de vagues souvenirs d'époques plus heureuses dans notre marche avec Dieu. On reste sur notre faim. Par exemple, on doute de l'amour de Christ à notre endroit. Ça vous arrive, ça? On doute que Jésus nous aime vraiment. Alors que des tables pleines de délices ont été préparées pour nous. Paul sait très bien que de façon générale, en tant que chrétien, on ne parvient pas à apprécier ce que Dieu a fait à sa juste valeur. Et c'est la raison pour laquelle il prie avec ferveur. Il fléchit les genoux. Il connaît notre besoin immense d'expérience vécue. Alors évidemment, notre expérience de Dieu, elle peut pas être maintenue à un niveau maximal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sera le cas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais pour l'instant, il faut plutôt parler de degrés. On goûte à l'amour de Dieu à différents degrés. Parfois, une lecture biblique nous encourage, nous fait du bien, tout simplement. Parfois, un chant nous rassure, nous console, nous réconforte. Parfois, un moment de prière avec nos frères et sœurs nous bouleverse, nous émeut. Parfois, un message biblique nous électrocute. Parfois, un événement de la vie nous réveille. On a besoin de toutes ces expériences, les plus douces comme les plus fortes. Ce qui m'amène à ma deuxième question, quoi demander? Quoi demander? Demandons des expériences ancrées dans l'Évangile, versets 16 à 19. Il est important de réaliser que les expériences que Paul demande pour ses lecteurs sont très précises et très réfléchies. Ces expériences reflètent les réalités de l'Évangile de Christ, de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Il ne s'agit donc pas de rechercher l'expérience pour l'expérience ou d'approuver toutes les expériences spirituelles qui nous sont proposées. Dans son ouvrage sur les prières de Paul, Don Carson a écrit ceci à propos de notre passage. « Ne croyons surtout pas que Paul appelle à un mysticisme incontrôlé. Pour lui, l'amour de Christ n'est pas du domaine de l'expérience privée. L'amour de Christ est un fait historique. Il a été manifesté quelques années auparavant sur une croix hideuse près de Jérusalem. Il s'inscrit dans un plan de rédemption merveilleux que Dieu lui-même avait dévoilé au fil des siècles et qui a trouvé son accomplissement dans la mort, la résurrection et la glorification de son Fils. » Paul ne prône pas une expérience d'amour qui déborderait des limites de l'Évangile. Il ne suggère pas non plus que n'importe quelle expérience spirituelle est pertinente et bonne. Ce qu'il dit plutôt, c'est que sans l'aide de Dieu, les chrétiens sont incapables d'apprécier l'amour de Dieu à sa juste valeur. Ils ont besoin de la puissance de Dieu pour en comprendre le caractère infini, et c'est la raison pour laquelle Paul demande cette puissance. Autrement dit, c'est l'Écriture qui doit définir les normes, les limites de l'expérience. Ça, c'est facile à dire. Mais c'est un défi pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'en général, peut-être par tempérament ou en raison de la culture de l'église à laquelle on appartient, l'église locale, on est porté à privilégier soit le pôle de l'écriture, de la réflexion, de l'étude biblique, le pôle du Oya, soit le pôle de l'expérience, du vécu, du concret, de l'affectivité, de l'enthousiasme. Mais Paul, lui, ne choisit pas entre la parole et l'expérience. Non, il prône passionnément l'expérience autour de la parole, l'expérience de la parole de Dieu. C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre, de fortes expériences bouleversantes qui s'enracinent profondément dans le plan de Dieu tel qu'il a été révélé dans l'Écriture. Comme quoi, par exemple? Eh bien, dans notre texte, Paul décrit trois expériences. Première expérience, l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. L'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. Au verset 16, Paul demande à Dieu qu'il donne aux chrétiens selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire à partir de ses ressources illimitées, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Si tu es chrétien, nous dit Éphésiens 1, 13, au moment où tu as cru en l'évangile, la parole de la vérité, tu as été scellé du Saint-Esprit qui est le gage de ton héritage futur. Il est venu habiter en toi. Mais ce même Saint-Esprit veut maintenant te fortifier dans ton être intérieur. Et Paul reformule cette même expérience un peu différemment au début du verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alors l'homme intérieur du verset 16 et le cœur du verset 17, eh ben c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le centre de notre être, la tour de contrôle, le siège de notre volonté, de notre conscience et de nos choix. Ce sont nos tripes. Ce sont nos tripes. C'est le quartier général de notre personnalité. Paul dit maintenant que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Souvent, quand on parle de notre conversion, on dit « Jésus est venu habiter dans mon cœur ». Mais c'est dans un autre sens que Paul utilise cette expression ici. Ici, il est question d'une habitation permanente, d'une installation complète dans notre cœur, par la foi, par la confiance en Christ. Quand Laura et moi étions le couple pastoral à Wittenheim, on habitait dans la maison pastorale, dans le presbytère situé juste à côté de la chapelle. On y a vécu 5 ans. Puis on a quitté cette maison pastorale pour s'installer près d'Annemasse. Et quand on a rendu visite au nouveau couple pastoral, quelques mois plus tard, donc ce sont des amis, on a retrouvé exactement la même maison à l'extérieur. Mais l'intérieur avait complètement changé. De nouveaux meubles étaient arrivés. La répartition des pièces était différente. Dans mon bureau, il y avait un lit. J'ai d'ailleurs trouvé l'idée assez intéressante. Mais en fait, mon bureau s'était transformé en chambre à coucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nouveaux venus se sont progressivement installés. Ils ont fait de cette maison leur demeure, leur habitation à eux. Et c'est l'idée ici que Christ occupe et organise progressivement toutes les pièces de notre cœur à son goût. Qu'il règne en nous. Qu'il règne en nous. Un exemple de cette première expérience, Corrie ten Boom, cette chrétienne des Pays-Bas qui s'est retrouvée dans le camp de concentration de Ravensbrück durant la Deuxième Guerre mondiale, a eu besoin d'être puissamment fortifié par l'esprit dans son être intérieur. On parle souvent de cette histoire pour illustrer le pardon, mais elle peut aussi nous aider à comprendre la prière de Paul. En 1947, alors que Corrie est dans une église à Munich pour parler justement du pardon de Dieu, elle aperçoit celui qui avait été, quelques années auparavant, l'un des surveillants les plus cruels de Ravensbrück. Après la conférence, il vient vers elle pour lui serrer la main. De toute évidence, il ne la reconnaît pas. Entre-temps, il est devenu chrétien et il lui demande à elle, en tant qu'ex-prisonnière, de lui pardonner toutes les cruautés qu'il a commises au camp. Sur le coup, Corrie en est absolument incapable. Elle est comme figée, bloquée. Je la laisse nous raconter la suite. « Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. » Bien sûr, je peux lever la main, ça, j'en suis bien encore capable, mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je posais une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. « Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. » Nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celles de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'avais essayé et à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit. Comme nous le lisons en Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5, c'est un texte parallèle de notre passage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors que Corrie était confrontée à sa faiblesse dans cette situation difficile et qu'elle était totalement démunie, incapable d'y arriver par elle-même, elle a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit qui l'a fortifiée intérieurement. Cette puissance qui nous dépasse. Et comme on le voit avec l'exemple de Corrie, cette première expérience s'accompagne d'une deuxième. Donc Paul nous parle dans la suite du texte. Deuxième expérience, l'expérience d'un amour sans limite. L'expérience d'un amour sans limite. On sait que Christ nous a aimés à la croix. On le sait. Mais on a besoin, par des expériences vécues, d'être immergé dans cet amour. Pour reprendre les expressions de Paul, on a besoin d'être enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Quelle merveille! Dieu est disposé, Dieu a envie de nous faire connaître intérieurement et réellement un amour qui surpasse toute connaissance humaine. On peut connaître ce qui surpasse toute connaissance humaine. Ça, c'est une expérience forte. Et bien que l'amour de Christ n'ait aucune limite dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans sa hauteur, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, il nous est possible, est-ce qu'on le croit? Il nous est possible, avec le secours et l'intervention de Dieu, de saisir un peu mieux cet amour. C'est possible aujourd'hui. Corrie ten Boom était chrétienne depuis des années et pourtant elle a dit « Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. » Toi qui connais le Seigneur depuis un moment déjà, est-ce que tu demandes encore à Dieu d'être scotché par son amour? D'être saisi par l'insaisissable, d'être transporté par la grandeur de son sacrifice à la croix pour toi, par son pardon dans ta vie et par tous les bienfaits qui découlent de ce pardon et de cette justification. Et remarquez bien au verset 18 que cette expérience de l'amour de Christ se vit avec tous les saints, avec tous les chrétiens. Un commentateur a écrit « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. Est-ce que tu aimes ton église locale, même si elle n'est pas parfaite? Est-ce que tu es attaché dans ton cœur à ton église locale? J'espère que oui, parce que c'est elle qui te permet de faire l'expérience de l'amour de Christ. La communauté est la toile de fond sur laquelle se dessine l'amour du Christ dans notre vie. La communauté est la toile de fond. Lors du culte dominical, on peut goûter ensemble à l'amour de Christ par la louange communautaire, par l'écoute de la parole de Dieu, par la scène, par la communion fraternelle à d'autres moments que pendant le culte, par l'oreille attentive d'un frère ou d'une sœur, par une parole dite à propos. C'est Christ qui nous aime par tout cela. Quand on est appelé à pardonner à un frère ou à une sœur, comme Corrie, c'est alors qu'on redécouvre l'amour de Christ pour nous, son pardon à notre endroit. Et c'est ce pardon qui nous permet de pardonner aux autres. En un mot, l'amour de Christ se vit au rythme de nos relations les uns avec les autres. Tout cela nous amènera à vivre une troisième expérience, l'expérience de la maturité spirituelle. L'expérience de la maturité spirituelle. La fin du verset 19 dit « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est certainement pas devenir un Dieu. C'est une expression qui est pas facile à comprendre. Mais il me semble que c'est être totalement contrôlé par le Dieu de gloire, être totalement maîtrisé par lui, dirigé par lui. Pour paraphraser, c'est être tout ce que Dieu veut qu'on soit. C'est être mûr spirituellement. Et cette troisième expérience, elle est en quelque sorte le résultat, la conséquence des deux premières. Plus on fait l'expérience de cette force intérieure qui nous dépasse, plus on goûte à l'amour sans limite de Christ, plus on avance vers la maturité. Dans le livre « Si tu veux aller loin » de Ralph Challis, il est question, avec d'autres mots certes, des trois expériences de notre passage. L'auteur écrit ceci. « Dieu m'a rencontré quand j'avais 18 ans. La première année de ma nouvelle vie était magnifique, mais j'ai perdu ensuite cet élan et ma vie est devenue progressivement plus décevante jusqu'à l'âge de 23 ans où j'étais près du désespoir. Personne ne m'avait appris l'importance d'une lecture systématique de la parole de Dieu. Et Ralph Challis a alors commencé à lire des biographies d'hommes et de femmes de Dieu et il a réalisé qu'ils passaient tous beaucoup de temps dans la prière, ça c'était une chose, et qu'en plus, ils lisaient tous la Bible entière chaque année. Il a donc commencé à les imiter, ce qui l'a amené à vivre régulièrement les deux premières expériences de notre texte. Il écrit ceci. « Au début, j'ai trouvé cette discipline assez ardue. Mais au bout de quelques mois, elle a cessé d'être dure, elle est devenue une joie indicible. Dieu commençait à se révéler à mon âme d'une façon indescriptible. Je vivais devant une aurore de lumière divine toujours plus radieuse, dans un printemps de Dieu qui transformait ma pensée. Ce rayonnement de sa face éclairait tout mon être. Je commençais à vivre le ciel. J'étais ébloui par la révélation de son amour. J'étais ébloui par la révélation de son amour. Et peu à peu, pour reprendre les expressions de Paul, l'Esprit a puissamment fortifié Ralph dans l'homme intérieur, c'est la première expérience, et progressivement, il a pu comprendre par la parole les dimensions illimitées de l'amour de Christ, c'est la deuxième expérience. Et en quoi tout cela peut-il mener à la maturité, qui est la troisième expérience ? De notre passage, eh bien plus loin dans son livre, Ralph s'adresse à un jeune homme de 20 ans dans les termes suivants. Si tu lis la Bible en un an approximativement, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, tu l'auras lu 10 fois. Il y en a qui sont encore là. 10 fois. Tu auras déjà une connaissance consistante des choses de Dieu. Tu seras déjà imprégné de toute sa pensée. Tu seras puissant, un homme de Dieu. À l'âge de 40 ans, tu auras lu la Bible. Oui. Une vingtaine de fois et tu seras un véritable prophète ou docteur. Tu auras un message pour la nouvelle génération. Tu seras une source d'inspiration pour tes enfants. Tu seras un pilier dans l'église. À l'âge de 60 ans, tu auras lu la Bible une quarantaine de fois. Tu auras un message précieux et foudroyant pour jeunes et vieux. Tu sauras orienter l'église et la sauver de l'erreur. Au lieu de passer à la retraite dans un oubli tragique, tu seras recherché de tous les côtés pour la lumière céleste que tu sauras apporter sur les questions de base et d'actualité. Ô mon frère, ô ma sœur, je te convoite pour Dieu, afin qu'il fasse de toi un homme, une femme de Dieu. Dans l'éternité, tu ne cesseras de bénir Dieu pour cela. Question. Qu'est-ce qui peut mener à la maturité? Simplement lire la Bible tous les jours? Non. C'est plus que ça. Pour le dire simplement, ce qui mène à la maturité, c'est la méditation régulière de la parole associée à des expériences fortes autour de son message central, l'évangile de Jésus-Christ. C'est réalisé au fil de ma lecture de la Bible que Dieu m'aime et qu'il m'accepte tel que je suis. C'est réalisé qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est lire ma Bible de manière christocentrique, centrée sur Christ. C'est lire ma Bible en m'émerveillant de la grâce de Dieu. Peu importe que je lise 2, 3 ou 4 chapitres par jour, c'est pas ça la grande question. Mais est-ce que je fais l'expérience de l'émerveillement quand je lis la Bible? Et attention, je ne rendrais pas justice à ce texte si je donnais l'impression que l'application unique ou principale, c'est le culte personnel, puisqu'on est appelé à faire ensemble l'expérience de l'amour de Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles à l'IBG, on encourage ce qu'on appelle la prédication textuelle. Et vous avez un article qui explique ce que c'est. Mais en gros, la prédication textuelle, c'est quoi? C'est oyak. Donc, quand on a fait observation, interprétation et application, on n'est pas loin de la prédication textuelle. Tout ce qui manque, c'est de communiquer. C'est communiquer les résultats d'oyak. Et quand on présente un texte comme cela, l'Église peut s'émerveiller de ce que Dieu a fait, puisque c'est le texte qui est mis en avant. Autre application collective, les groupes d'études bibliques, que vous connaissez bien dans les GBU, ou les groupes de maison. Avec quelle attitude, dans quel état d'esprit est-ce que je me rends à l'étude biblique? Est-ce que c'est en vue de débattre, en vue de mettre en avant mes idées, mes opinions, ou est-ce que j'y vais en me disant « j'ai envie » d'être surpris, d'être étonné par la grâce de Dieu, par son amour avec mes frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu et en méditant l'Écriture. Quand on arrive au A de Oya, ne recherchons pas simplement des actions à entreprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parfois, l'application, c'est tout simplement être bouche bée devant ce que Dieu a fait. Très rapidement, je réponds à la troisième question. Comment demander? Demandons en nous attendant à plus. Les versets 20 et 21. Demandons en nous attendant à plus. Paul termine en louant Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La fin de notre passage est absolument incroyable. Paul a consacré 3 chapitres à convaincre ses lecteurs que ce que Dieu a déjà fait pour eux dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ça dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. On est passé de la mort à la vie spirituelle. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est intégré dans la communauté des croyants. On est réconcilié avec Dieu. Mais Paul termine en disant, et c'est pas tout. C'est pas tout. Non seulement ce que Dieu a déjà fait pour vous dépasse et a certainement dépassé vos attentes, mais ce que Dieu veut encore faire en vous transcende également l'imagination humaine. Il veut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par conséquent, demandons en nous attendant à plus que ce qu'on est en train de lui demander, à plus que ce qu'on peut même s'imaginer. Les expériences de l'Évangile que Dieu garde en réserve pour toi sont extraordinaires et inimaginables. Il te suffit de les demander et de les rechercher dans le contexte de l'Église locale. En t'attachant à l'Écriture dans un esprit de dépendance et de supplication pour que Dieu se révèle à toi personnellement. Quand tu te rends au culte, est-ce que c'est dans cet état d'esprit, avec cette attente, que Dieu veut faire au-delà de ce à quoi tu t'attends? Et tout cela, nous dit le verset 21, c'est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Dieu, il est glorifié, il est honoré quand on prend plaisir. Il est glorifié quand sa puissance agit en nous et nous transforme par l'Évangile. Il aime ça. Il est glorifié quand on est bouche bée devant sa grâce et devant son amour. Il est glorifié quand on s'émerveille de ce qu'il veut faire en nous et de ce qu'il a déjà fait. Mon frère, ma sœur, ce que tu as vécu avec Dieu, où que tu en sois ce matin dans ta marche chrétienne, ce n'est que le commencement. C'est que le début. Dieu t'invite ce matin à lui demander plus parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Il a mis en banque des ressources, non pas pour qu'elles s'accumulent à l'excès, mais pour qu'elles soient dépensées et utilisées sur le terrain de ta vie chrétienne. Et ne t'en fais pas parce que quand le premier milliard sera épuisé, il va en mettre un deuxième, puis un troisième dans ton compte, et ainsi de suite pour toute l'éternité, parce qu'il agit selon la richesse de sa gloire. Après 40 ans de vie chrétienne, Ralph Chalice pouvait dire « J'ai vécu dans ce royaume plus de 40 ans, l'expérience que j'en ai, et moi ça me fait envie. L'expérience que j'en ai, loin de disparaître ou de diminuer, disparaître ça me fait pas trop peur, diminuer, l'expérience que j'en ai, loin de disparaître ou de diminuer, persiste en se développant chaque année, jour après jour. Elle me bouleverse encore par de nouvelles visions de mon Dieu, ineffables et à peine imaginables. » Est-ce que vous avez envie de ça dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Est-ce que tu choisis de te contenter du SMIC? De ce que Ralph Chalice appelle dans son livre une petite vie confortable et banale? Ou est-ce que tu aspires au grand horizon de Dieu, à l'attachement de plus en plus total, de plus en plus éblouissant à l'Évangile de Jésus-Christ? Pourquoi demander? Parce qu'on en a besoin. Quoi demander? Des expériences profondément évangéliques, profondément centrées sur la croix et sur la résurrection de Christ. Comment demander? En nous attendant à plus que ce qu'on est en mesure de formuler. Et quand tu vas regarder en arrière dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, et tu vas repenser aux nombreux moments de régal, de festin, dans la présence de Dieu par l'Esprit, tu auras du mal à y croire tellement tu seras heureux et tellement tu seras émerveillé, malgré les souffrances inévitables de la vie. Prions. Seigneur, nous avons la chance de te connaître, mais nous voulons mieux te connaître. Tu nous as aimés, mais nous voulons goûter davantage à ton amour. Père, nous te demandons que notre expérience chrétienne soit de plus en plus intense, de plus en plus vraie, et que les réalités de l'Évangile ne deviennent pas comme un vieux refrain, mais qu'elles continuent de nous éblouir tout au long de notre parcours. Nous t'en supplions au nom de Christ. Amen.